Merci beaucoup, Michael. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin et je vais commencer en vous apportant les salutations de notre église à Pierrelatte, donc l'église CEF de Pierrelatte que peut-être certains d'entre vous connaissent et voilà qui vous apporte ces salutations ce matin. Et donc pour commencer ce temps autour de la parole, j'aimerais vous poser une question. Alors, il faut que je prenne le petit... Il est déjà là, formidable. Super. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont amateurs de voile? Je sais qu'on n'est pas à Marseille, hein, mais non, pas trop. Vous m'embêtez un peu, là. Alors, moi, je suis né à Marseille, mais je ne suis pas forcément un fan de la mer. C'est vrai, je l'avoue. C'est peut-être mes origines suisses qui me poussent plutôt vers la montagne. Mais bon, en habitant quand même au bord de la mer jusqu'à pendant 30 ans, j'ai forcément été au contact de la voile et j'ai même eu l'occasion de faire des régates avec un ami et je me suis rendu compte quand même que la voile est quelque chose d'un peu de fascinant, d'assez surprenant d'être au milieu de cette immensité d'eau. Et je peux comprendre que ce soit la passion de beaucoup de monde, la voile. Alors quand on parle de voile, même si vous n'êtes pas des grands fans de voile, je suis sûr que vous connaissez au moins une course mythique qui s'appelle le Vendée Globe. Ça vous parle ? Le Vendée Globe, c'est la course la plus connue de voile dans le monde. Elle a lieu tous les 4 ans, hein, comme la Coupe du Monde. Et elle rassemble les plus grands skippers et qui doivent faire le tour du monde en solitaire. Pendant 3 à 4 mois. C'est plus long qu'un confinement. Je laisse imaginer ce que ça fait. Et c'est tout seul. Hein. Et ils ne peuvent pas sortir de 1 km autour de chez eux parce que leur bateau, il fait quelques dizaines de mètres au maximum. Et cette année, donc entre fin 2020 et début 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi, mais il y a eu le Vendée Globe qui a eu lieu. Et l'arrivée du Vendée Globe a été particulièrement palpitante pour les amateurs de sport, de manière générale, j'ai envie de dire, et encore plus pour ceux de voile, parce qu'après 3 ou 4 mois de mer, il y a 8 bateaux qui sont arrivés en l'espace de 24 heures. Donc je vous laisse imaginer le truc de fou, on fait une course qui dure 4 mois et à la fin on arrive dans un mouchoir de poche de 24 heures. Et donc du coup, moi je suis fan de sport de manière générale et c'est vrai que j'étais particulièrement attentif à ce qui allait se passer dans ces dernières heures. Alors, est-ce que je fais comme il faut? Ouais, super. Quand on regardait, je me souviens, je regardais un peu les trajectoires des gens qui arrivaient et je me souviens qu'il y avait quelque chose d'assez surprenant, et on le voit bien sur cette image. En fait, avant d'arriver au Sable d'Olonne, hein, c'est l'arrivée du Vendée Globe, les bateaux, sur les dernières 24 heures, avaient des options de trajectoire différentes. Il y avait deux possibilités, soit on y arrivait par le sud, soit on y arrivait par le nord, et donc les skippers devaient choisir, et en fait, on se rend compte qu'ils sont tous arrivés à 24 heures les uns des autres, mais en réalité, leurs trajectoires sont très différentes. Et c'est pas ça qui les a empêchés d'arriver. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui parle de trajectoire, qui parle plus particulièrement de changement de cap. Et c'est un texte qui a d'ailleurs été écrit par un marin qui s'appelle Pierre. Alors, c'était pas un navigateur solitaire. Lui, il faisait de la voile pour son travail. Il était pêcheur. Mais c'est lui qui a écrit le texte ce matin et j'aimerais que vous le preniez avec moi. Donc dans 1 Pierre, et je vais lire les 11 premiers chapitres, les 11 premiers versets du chapitre 4. Non, je ne vais pas y arriver. Hein. Merci, je te ferai signe du coup. Encore une fois, s'il te plaît. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché, afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens, en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivronnerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche, et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, d'ailleurs, que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée, en faisant preuve de modération, afin d'être disponible dans la prière. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de grâce particulier, qu'il exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire, la puissance pour l'éternité. Alors c'est un texte, vous allez me dire, ça ne parle pas trop de voile quand même, c'est un texte qui ne parle pas de voile en soi, mais qui va parler de changement de direction, de changement de cap, et vous allez voir qu'on a beaucoup d'images et de liens que l'on peut faire avec le domaine de la voile. Alors, un texte qui peut-être, quand vous l'avez entendu, quand vous l'avez lu, vous a paru un peu compliqué, c'est vrai, je pense que ce n'est pas un texte qui est simple à lire, il y a beaucoup de choses, mais vous allez voir, on va essayer de rentrer dans ce texte et de voir comment il peut nous parler aujourd'hui, ce matin. Alors tout d'abord, on peut remarquer sur la forme de ce texte, un petit peu de contexte quand même. Donc, je l'ai déjà dit, c'est Pierre qui a écrit cette lettre. Pierre, il a écrit deux épîtres à des églises pas précises, hein, des églises, on appelle ça des épîtres assez générales, qui s'adressent à un ensemble de chrétiens, plutôt de l'Asie mineure, donc de l'actuelle Turquie. Et dans cet épître-là, il parle principalement de la vie chrétienne. Et donc ce matin, le texte parle de la vie chrétienne dans son ensemble, et vous allez voir un peu plus de quoi, ce dont je veux parler. Alors, on dit que ce texte, si on rentre un peu plus dans le texte, les verbes qui sont utilisés sont des verbes qui sont à l'impératif. Vous avez peut-être remarqué, il est dit « armez-vous »,« menez donc »,« exercez donc », et certains mots montrent qu'il y a du changement dans l'air. « C'est bien assez », dans le passé, maintenant. On est en train de parler de choses qui ont changé. On est en train de parler de choses qui étaient avant et qui maintenant ne sont plus, ou qui devraient ne plus être. Et du coup, c'est pour ça que ce texte, cette prédication, je l'ai intitulé « Changement de cap », parce qu'on est sur du changement. Alors les premiers mots de ce chapitre 3 commencent par « ainsi donc ». Donc forcément, quand on dit « ainsi donc », on est obligé de revenir un petit peu en arrière. Dans le chapitre 3, et en particulier ici, il est parlé, Pierre parle du baptême qui purifie, qui sauve, et qui, ce baptême, est rendu possible par une seule chose, par les souffrances injustes et la mort de Christ. Et donc ce texte, ce contexte nous montre que ce texte en particulier s'adresse à des chrétiens, à des gens qui ont déjà placé leur confiance en Jésus. Mais ils regardent en arrière, ils ne regardent pas juste ce qu'ils vivent aujourd'hui, ils regardent en arrière en rappelant à quoi ressemblait leur vie d'avant. C'est un peu ce qui va se dire dans les premiers versets. Et en particulier le verset 2 dit « C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé. » Donc là, ils regardent en arrière. Alors, je vais essayer de passer à la suite, si tu peux. Voilà, super, merci. Ils regardent en arrière et ils montrent ce qui s'est passé avant leur conversion, si j'ai envie de dire. Alors peut-être parmi vous, il y a un certain nombre de personnes qui se sont converties à l'âge adulte, et la rupture dans ces cas-là, souvent entre le avant et le après, est assez nette et sans appel. C'est peut-être plus flou pour vous, peut-être qui vous êtes convertis jeunes ou qui avez été élevés dans des familles chrétiennes. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est certaine, c'est que la vie sans Dieu est pilotée par notre propre volonté, et cette propre volonté, elle est entachée par le péché. Et elle cherche un but pour avancer, et elle est différente de la vie avec Dieu. Alors, on a des scénarios de vie différents, et peut-être que dans notre recherche de sens de notre vie, peut-être avant, ou peut-être que c'est votre cas encore aujourd'hui, vous cherchez une cause à servir, une bonne cause, quelque chose, vous avez envie de mettre votre énergie dans cette cause, peut-être pour se rendre compte qu'un jour, elle n'a pas eu le sens escompté, que la récompense que vous pensiez avoir par la reconnaissance des autres ou par la réussite de votre cause n'est pas là. Peut-être que, et je pense que c'est plus de ça dont parle ce passage, dans notre vie, dans la vie de beaucoup de personnes, on est à la recherche de notre propre plaisir. ça s'appelait l'hédonisme, c'est le terme grec qui montre que c'est quelque chose qui est loin d'être récent et qui est prodé depuis l'Antiquité et qui n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Si je dis qu'on souhaite vivre de nos passions, on cherche des choses qui nous font plaisir, peut-être comme la soif de posséder, des très bonnes nourritures, peut-être un petit peu trop, l'alcool, peut-être un petit peu trop, les drogues éventuellement, le sexe, pourquoi pas. Beaucoup de choses qui nous attirent, qui attirent le monde dans lequel on est, et qui sont là pour notre propre plaisir. Et c'est ce que dit le verset 2. Alors, ce n'est pas les mêmes mots qui sont utilisés, mais c'est vraiment les mêmes choses de la nature humaine qui sont derrière. Et dans tout cela, Pierre dit « c'en est assez ». Arrêtez de perdre votre temps, ce qu'il dit, à chercher votre propre plaisir, parce que ça ne vous comblera jamais. De vivre de vos passions, vous n'aurez pas ce que vous attendez. Vanité, tout est vanité, vous connaissez ce texte de l'Ecclésiaste, et bien c'est un peu ce qu'on peut conclure avec ce qui est dit ici. Et comme en témoignent régulièrement de nombreuses stars qui ont pourtant accès à tout, qui finissent par perdre ce qu'elles ont de plus cher, à chercher un but à leur existence qu'elles ne trouvent pas. Mais au contraire, si on reprend un peu ce que dit ce texte, avoir une vie centrée sur Dieu a du sens. Et c'est pour ça que c'est un changement de cap. D'un côté, on cherche, on vire, on vadrouille, et de l'autre côté, on a un cap qui, lui, est beaucoup plus sûr. Et au lieu d'être embarqué par des vents qui vont dans différentes directions, le cap de la vie chrétienne connaît sa direction, connaît sa destination. Et mettre la volonté de Dieu à la première place dans notre vie, avant notre propre volonté, avant notre propre plaisir, c'est de connaître ce cap. C'est pas pour être des pantins, mais c'est parce que le cap que l'on veut suivre, il est sûr, que la destination dans laquelle on va, elle est connue, elle est certaine, elle nous donne une espérance que rien d'autre sur la terre peut nous donner. Alors, ce cap, il est différent du monde qui nous entoure. Et je suis sûr que si je vous relis le verset 4, ça va vous parler. Verset 4 nous dit « Maintenant, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans la même vie de débauche et ils se répandent en calomnie sur vous. » Alors peut-être que vous aviez des amis, vous les avez toujours, j'espère, avec qui vous aviez l'habitude de faire les 400 coups et qui, au bout de quelques mois, se comprennent pas pourquoi vous n'êtes plus disponible le dimanche matin. Ou des collègues avec qui vous avez l'habitude d'aller faire des soirées bien arrosées le vendredi soir et qui ne comprennent pas pourquoi vous déclinez leur invitation ou que vous souhaitez vous arrêter après une bière ou deux. Les mots « étranges » ou « surprises » qui sont dans ce texte sont assez significatifs. C'est vraiment de l'incompréhension. Je pense que vous avez déjà vécu ça. Des personnes qui ne savent pas ce que c'est être chrétien, ne savent pas ce que c'est avoir mis sa vie pour Dieu, comprennent pas. Mais je comprends pas, mais fais-toi plaisir. Attends, ça fait rien de s'amuser un peu, ça fait rien. Des incompréhensions comme qui pouvaient aller un peu plus loin. Toi qui étais le premier à raconter des blagues en dessous de la ceinture, tu rigoles même plus. Tu quittes le groupe quand on commence à parler de ça. Non, mais quand même. Toi qui donnais des bons plans pour acheter de l'herbe. Attends, tu fumes plus? Non, c'est pas possible. Attends, toi qui faisais tous les moyens pour faire du taf au black, tu payes ta TVA maintenant? Arrête, c'est pas possible. Beaucoup de choses qui peuvent nous attirer des moqueries, des insultes à l'égard de notre comportement. Et ça, c'est valable à tous les stades de notre vie. Que l'on soit jeune, au collège, au lycée, que l'on soit dans le début de la vie active, que l'on soit dans la grande vie active, que l'on soit à la retraite, que ce soit avec nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, à tous les moments de notre vie, on peut se retrouver dans ces situations-là. Et j'aurais envie de dire que si cette différence, elle n'est pas flagrante, il y a peut-être des questions à se poser. Si être chrétien ne se voit pas du tout, c'est qu'il y a un problème. Être chrétien, ce n'est pas juste croire en Dieu. Si ça ne se voit pas, si ça ne change pas notre manière de vivre, nos habitudes, mais qu'on reste dans le passé, comme c'est écrit dans ce texte, il y a, il me semble, deux solutions. La première, c'est que l'on peut être appelé des chrétiens tièdes, qui ne vivent pas selon leur foi, comme c'est écrit dans l'Apocalypse, et la sentence n'est pas très agréable à entendre, je les vomirai de ma bouche, vous connaissez ce texte peut-être, soit L'autre possibilité, c'est que vous pouvez trouver que ici, ce que vous entendez le dimanche matin à Cré, ou peut-être dans une autre église, ou peut-être sur Internet, est intéressant, que vous pensez que Dieu existe, que vous adhérez à cette philosophie de l'amour les uns des autres, que vous vous sentez à l'aise dans cette famille, mais que vous ne saisissez pas l'importance d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur sur toute votre vie. Et que ce n'est pas uniquement un maître à penser plus charismatique qu'un autre, mais c'est quelqu'un qui apporte une solution qui change fondamentalement notre manière de vivre. Et c'est pour ça que être chrétien nécessite un changement de cap radical entre celui du péché qui mène à la mort et celui de Jésus qui mène à la vie. Ça me fait penser à un chant que vous connaissez sûrement pas et que je vais pas vous chanter parce que sinon j'ai peur qu'il pleuve encore autant que cette nuit. C'est un chant qui a été composé pour un camp scout, un camp national. Tu peux passer à la slide d'après. Qui s'appelle « À contre-courant ». Alors, je vais juste vous lire un extrait de ce chant, mais je le trouve très intéressant dans ses paroles. Donc, il dit « Chasser l'intolérance qui règne de nos jours, tuer l'indifférence pour que vive l'amour, rester pur dans son corps, ses actes, ses pensées, rester fidèle encore à la parole donnée, c'est notre choix. » Et tant pis si les autres disent en se moquant, vous êtes d'une autre époque, il faut vivre avec son temps. Tant pis pour les autres qui ne comprennent pas qu'on choisisse de vivre à contre-courant. Voilà ce que l'on peut dire en tant que chrétien, cette impression que l'on peut avoir de vivre à contre-courant. Et il faut que nous soyons vigilants, que si cette impression de vivre à contre-courant s'arrête ou devient floue, c'est que nous sommes peut-être de moins en moins fidèles à la parole et que ça nous coûte de vivre à contre-courant. Je ne sais pas si vous avez déjà nagé à contre-courant dans une rivière, eh ben, c'est particulièrement difficile. Dans la vie chrétienne, ça nous coûte. Alors un exemple, avec mon épouse, on aime bien le cinéma et les séries. C'est vrai qu'on en regarde de temps en temps et ça nous arrive régulièrement et ça nous est arrivé il y a quelques mois, une série qui nous paraissait vraiment super et au cinquième épisode, de se voir que les valeurs qui sont dans cette série, elles sont vraiment à l'opposé de ce que l'on veut vivre, et donc se dire non, il faut arrêter de regarder ça, même si le sujet nous intéresse, même si les acteurs ont un bon jeu, même si c'est une série qui a l'air sympa, non, on arrête de regarder. Ça nous coûte, oui, mais je pense que c'est ce que nous enseigne la Bible, de savoir faire des choix. Et dans le monde qui nous entoure, malheureusement, ça arrive de plus en plus souvent, en tout cas c'est la remarque que l'on se fait, notamment ce qui se passe dans les séries ou dans le cinéma, des histoires souvent qui mettent en avant la perversité, des histoires sombres, violentes, qui sont vraiment à l'opposé de ce que l'on veut vivre en tant que chrétien. Alors, maintenant qu'on a dit qu'on devait changer de cap, maintenant que l'on a parlé un peu de tout ce que ça impliquait, j'aimerais continuer un peu dans notre analogie maritime, si tu peux passer à la slide suivante. En disant que le verset 7 nous rappelle quelque chose qui est important, qui nous dit que la fin de toute chose est proche, et que la course, comme la course du Vendée Globe, a une fin, et que notre vie chrétienne aussi a une fin, et que aussi dans le fait que la fin est proche, c'est pas le moment de manquer de vigilance. Alors je reviens un peu au Vendée Globe, et si vous avez suivi aussi les dernières heures, il y a eu notamment un fait de course assez marquant, un des prétendants à la victoire qui s'appelait Boris Herman, qui a heurté un chalutier 90 000 nautiques avant l'arrivée. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, il était dans son bateau et en fait il dormait, il se reposait un peu pour les derniers miles. Il avait tellement confiance dans ses outils de pilotage qu'il a manqué de vigilance sur la fin après plus de 3 mois et demi de mer, et ça lui a coûté de monter sur le podium du Vendée Globe. Je pense que dans la vie chrétienne, c'est pareil. Parfois, on peut se laisser endormir, confiant dans tout ce qu'on a mis autour de nous, et on peut se retrouver avec des collisions, avec des choses qui nous ralentissent dans notre vie chrétienne. Alors ça ne va pas changer la destination à laquelle nous allons, parce que si nous avons accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, nous savons où nous aller, mais ça va nous faire changer de cap, ça va nous faire perdre du temps, ça va nous faire des dégâts, et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nos vies. J'aimerais lire Luc chapitre 21, versets 34 et 36, qui rappelle ce point-là. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne pas à l'improviste. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je nous encourage à rester éveillés et à ne pas nous laisser séduire par ces plaisirs de la vie, mais et ces plaisirs qui peuvent nous détourner du bon cap. Alors, une fois que j'ai dit ça, on peut mettre aussi un deuxième aspect de notre vie de chrétien, en parlant du bateau, qui est l'Église, et en particulier les relations que l'on a les uns avec les autres dans l'Église. Et le fait que la manière dont on agit, dont on sert dans l'Église, doit se caractériser par l'amour. Alors ici, on est à Cré, alors c'est sûr qu'on n'est pas au bord de la mer, mais vous êtes dans un même bateau. Alors ce qui est bien, en plus, dans l'Église de Christ, c'est que le bateau, il peut changer. Aujourd'hui, on est dans une salle des fêtes. La dernière fois que je suis venu, vous étiez dans votre local, dans le centre-ville. Je sais que vous avez eu plusieurs locales, et le bateau de l'Église n'a pas besoin d'un local fixe. Il est beaucoup plus large, et c'est vraiment génial. Et ce bateau, il est important parce qu'il est constitué d'un équipage de personnes différentes que vous êtes et qui avaient au minimum un don, c'est ce que dit l'Écriture. Et ces dons doivent être mis au service de l'équipage. Je lis dans 1 Corinthiens, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Un seul équipage, un seul bateau, mais une multiplicité de servir, chacun avec sa couleur, chacun avec ses dons. Le mois de septembre, vous savez, hein, c'est souvent un mois de rentrée des classes, de rentrée de beaucoup de choses, mais c'est aussi un mois où beaucoup d'actions, d'organisations se mettent en place dans l'Église, et c'est l'occasion de se manifester, de savoir où Dieu veut que nous servions cette année, à quelle place il veut que je mette mes dons au service de l'équipage qui est son Église. Je ne vais pas m'attarder plus sur le service, parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez bien en tête, mais je voulais vraiment le rappeler ce matin, et j'aimerais quand même prendre quelques minutes sur les versets 8 et les versets 9, que je vais relire. J'ai trop de feuilles. Là, voilà. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Dans une église, ce qui doit nous souder les uns les autres, c'est l'amour les uns pour les autres. Et nous sommes vraiment appelés à manifester cet amour les uns pour les autres. Un amour ardent, un amour fervent, un amour qui nous lie, un amour qui doit être le ciment de notre unité en tant qu'équipage. Cet amour est au centre de l'Église, et dans n'importe quelle Église, que ce soit une Église qui grandisse, comme c'est le cas nous à Pierre-Latte, une Église qui a beaucoup grandi ces dernières années, une Église qui soit en pleine maturité, une Église qui soit débutante, une Église qui soit plus dans la difficulté peut-être, l'amour doit être au centre de cette Église. Ici, à Cré, je ne connais pas votre vie d'Église dans le détail, mais je suis sûr que vous voyez bien de ce dont je veux parler, cet amour au centre de notre Église, de notre équipage. Ce verset 9, il parle de l'hospitalité aussi, mais de l'hospitalité, et là c'est un point que je trouve vraiment important, sans murmure, hospitalité sans murmure. Alors nous pouvons être des chrétiens qui servent, mais aussi des chrétiens qui parlent, qui râlent, qui laissent leur langue dire beaucoup de choses, qui disent peut-être des choses de ses frères et sœurs. Oh, lui, il fait rien. Par contre, il pourrait faire quelque chose quand même, il fait rien. Oh, lui, il le fait mal quand même, hein. Il pourrait le faire un petit peu mieux. Ou lui, il ferait mieux de se taire. Il devrait mieux regarder ce qu'il a à changer dans sa maison plutôt que de dire ce qui a changé chez les autres. Dans une église, on peut avoir cette tendance à parler les uns des autres, mais ça va à l'inverse de cet amour dont j'ai parlé jusqu'à présent. Et dans une église où il y a des besoins multiples, il y a aussi beaucoup d'occasions de se plaindre les autres, les uns des autres. Et j'aimerais que, et moi le premier, on s'encourage à garder à l'esprit que dans ce bateau, nous sommes tous ensemble et que si nous voulons rester unis, nous devons garder cet amour et nous abstenir de tout murmure, de toute parole sur les autres, parce que c'est ça qui va nous détruire les uns et les autres. Alors j'aimerais terminer avec une dernière partie. J'ai parlé du bateau, alors c'est une belle image que j'ai voulu prendre ce matin. Bien sûr, un bateau, il y a un équipage, il y a une direction, mais il y a surtout un capitaine à bord. Vous savez, dans un bateau sans capitaine, c'est pas évident. On appelle ça aussi un skipper dans le domaine de la voile. Et il faut que ce skipper, il est vraiment important. Le skipper, il était là avant même qu'on ait pris la mer. En réalité, c'est lui qui a préparé le chemin par où on allait. Il a étudié les vents, il a étudié les marées, il a étudié le courant, il a étudié la météo. Il sait par où passer. Et ce skipper, il est là dans ce passage. Dès le verset 1, on peut voir qu'il est écrit « Puisque Christ a souffert dans sa chair. » Sans la mort de Jésus, nous ne serions pas dans le bateau. Nous serions encore à la dérive, sans but, sans cap. Et le capitaine de notre bateau, c'est Jésus, bien entendu. Et il était là avant même que nous rejoignions ce bateau. Il a déjà tout prévu, il a déjà tout étudié. Mais le capitaine, il est aussi là à la fin, il est aussi là au verset 11 de ce passage qui dit « Agissez en toutes choses afin que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. » À Jésus revient le mérite d'un bateau qui fonctionne, pas à nous. À Jésus revient le mérite d'une église qui est unie dans l'amour, parce que c'est lui qui en est le centre. Et c'est vrai que quand on se laisse guider par Jésus, quand on apprend à discerner sa volonté, la direction dans laquelle il veut nous amener, si on lui fait confiance quand ça va bien, si on lui fait confiance dans la tempête, on se rend compte que ce capitaine, il est vraiment incroyable. Alors, souvenez qu'on a dit que c'était Pierre qui avait écrit ce texte, Pierre qui était un pêcheur et un marin, et il en a essuyé sûrement des tempêtes. Alors, c'était pas au Cap Horn, hein, mais il paraît que les tempêtes sur le lac de Tibériade étaient quand même assez costauds. Et vous souvenez peut-être d'une qui nous est relatée, où il a vu marcher Jésus sur l'eau dans la tempête et qu'il a voulu le rejoindre et marcher sur l'eau avec lui. C'est ce même Pierre dont on parle. Et vous vous souvenez que, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé quand il a commencé à arrêter de regarder Jésus? Il a commencé à s'enfoncer. Mais heureusement que Jésus était là. Sinon, on ne sait pas comment aurait fini l'histoire de Pierre dans ce bateau, n'est-ce pas? J'aimerais terminer par une dernière image de la voile. Alors, vous savez, quand on parle d'une voile, on peut avancer quand les conditions sont bonnes. Et donc, on peut se dire que ce n'est pas le skipper qui fait avancer le bateau, mais ce sont les voiles, et en plus particulièrement, c'est le vent qui souffle dans les voiles. Et vous savez qu'on utilise de nombreux chants où on parle du vent qui souffle dans les voiles de notre bateau. C'est une belle image qui est reprise. Et il y en a un que j'aime particulièrement qui dit « Jésus soit le centre ». Et nous chantons « Soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit la raison de ma vie ». Et la puissance de Dieu qui se manifeste en nous par le Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit, c'est le moteur de notre service. C'est lui qui va souffler dans les voiles de notre équipage, de notre bateau. Et ça nous montre quelque chose que je trouve aussi intéressant. C'est qu'on ne doit pas chercher à servir dans notre Église en nous épuisant avec nos propres forces. Je vous laisse imaginer si vous êtes dans un équipage, dans un grand voilier, et qu'on dit « Allez, on va avancer aujourd'hui » et chacun se met à souffler dans la grand voile. Je vous laisse imaginer si vous allez aller très vite. Mais parfois, dans une église, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye de faire avancer les choses en s'appuyant sur nos propres forces, mais ça n'avance pas. Alors que si on laisse Dieu souffler dans nos propres voiles, alors que nous, on peut avoir de faibles forces, les choses vont être très différentes. Laisser la puissance de Dieu pousser notre bateau, le faire avancer et ne pas ramer nous-mêmes avec nos propres forces. Alors, pour conclure, j'aimerais rappeler qu'on a vu qu'en tant que chrétiens, nous avons changé de cap et que ce nouveau cap est différent de celui que nous suivions avant, qu'il est différent du monde qui nous entoure et qu'on est appelé à être vigilants. mais que dans notre bateau, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un équipage qui est au service, uni par un amour ardent, ou qui doit cultiver cet amour ardent. Mais plus que tout, nous avons un capitaine, Jésus, que nous pouvons avoir une confiance totale en lui, qui nous amènera sains et saufs jusqu'au port. Et ce passage se termine par une doxologie, littéralement ça s'appelle une parole de gloire, qui conclut généralement une prière, et ça se conclut ce passage, où ça peut conclure une lettre ou un psaume. Et j'aimerais du coup conclure mon message en lisant juste le dernier verset, cette doxologie, qui dit « Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. » Amen.